Femme coupable. Le titre de cette série de podcasts est un peu provocateur. Parce que finalement, ce n'est pas tant de femmes coupables que des femmes condamnées dont je voulais parler. Et ce n'est pas la même chose. Si on regarde les définitions, condamner quelqu'un, c'est le déclarer coupable. Coupable, ça vient du latin culpa, pour la faute, la culpabilité. Mais condamnation n'est pas toujours culpabilité. Il y a des coupables qui ne sont pas condamnés et des femmes condamnées qui sont innocentes. Mais il existe une troisième catégorie de femmes jugées. C'est celles qui sont condamnées pour autre chose que ce dont elles sont coupables. Et c'est souvent lié à un contexte historique, à la place des femmes à un moment donné dans la société qui les juge. Et à ce titre, il y a peu d'exemples aussi puissants que celui du procès de Marie-Antoinette. Car une femme coupable, c'est une chose, mais une reine coupable, alors là, c'en est une autre. Et puis, pas n'importe laquelle, la dernière reine de France. Accusée de trahison et de conspiration contre l'État quelques mois après l'exécution de son mari, l'ancien roi Louis XVI, Marie-Antoinette est jugée par un tribunal révolutionnaire aussi partial qu'expéditif. Car la toute jeune République française qui n'a pas fêté son premier anniversaire est déjà dans la tourmente. Et rien de mieux qu'un bouc émissaire pour justifier ses errements auprès du peuple. À travers l'Autrichienne, comme on l'appelle, on va juger l'ancienne reine, mais aussi la mère, et puis la femme. Ce n'est pas Marie-Antoinette qu'on condamne, c'est le symbole. Le symbole d'un ancien régime, évidemment, mais aussi celui de la déchéance morale et sexuelle des femmes. Car c'est aussi les femmes, en général, qu'on va juger à travers elles. L'ancienne reine n'était certainement pas une innocente, loin de là. Mais, après son mari, c'est un autre symbole qu'il fallait exécuter. Et pour cela, c'est à la femme qu'on a coupé la tête. Le 16 octobre 1793. Une exécution politique, donc, qui illustre à la fois la nature arbitraire de la justice révolutionnaire et la misogynie autoritaire et institutionnelle d'une jeune république qui se cherche. Dans ce procès, qui incarne le basculement de la révolution dans la violence et la terreur, vont s'affronter la monarchie et la révolution, la société d'ordre et l'égalité, mais aussi des hommes contre une femme. Un procès qui fera de la dernière reine de France un monstre ou un martyr, en tout cas un procès qui fera d'elle une légende. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Emmanuel de Varesquiel, historien et auteur. Vous entendrez aussi dans cet épisode des extraits du film « Marie-Antoinette, ils ont jugé la reine », film réalisé par Alain Brunard, produit par Arte et disponible en VOD sur Arte Boutique.
Vous faites de cette femme une espèce de vampe.
Les femmes sont exclues du monde judiciaire.
De Circé.
J'étais bête.
Cruelle.
Méchante.
Inflexible.
Pleine de défauts.
Sadique et perverse.
Femme coupable.
L'audience est suspendue.
Un podcast, La Première, de Juliette Proutot.
Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait.
Préparé avec Margot Page.
Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose.
Et réalisé par Anna Buis.
On ne coupera pas la tête.
Épisode 3. Marie-Antoinette, le procès d'une reine. Il est 8h30 du matin quand Marie-Antoinette fait son entrée dans le tribunal révolutionnaire. La salle d'audience porte un nom. Elle s'appelle la salle de la liberté. C'est un bien grand mot, surtout pour une pièce plutôt petite, si l'on compare à nos standards actuels. Et pas aussi impressionnante que l'on pourrait l'imaginer. Le décorum est plutôt sobre, sombre. Tout est en bois foncé, le sol, les murs, la petite balustrade qui sépare la pièce en deux, avec d'un côté les juges et le reste de la salle de l'autre. Les portes aussi sont foncées. Mais on remarque un petit reflet lumineux en haut de l'une d'entre elles, avec des lettres nouvellement gravées sur le bois, en doré brillant. Unité, indivisibilité de la République. Nous sommes le 14 octobre 1793, et l'ancienne reine de France vient de passer plus de 3 mois dans une cellule de la conciergerie, complètement isolée. Elle n'est pas très grande, mais très maigre. À 37 ans, bientôt 38, elle fait beaucoup plus âgée. Ses cheveux blonds sont désormais blancs, elle est malade, probablement un cancer de l'utérus ou un fibrome, selon les historiens. Elle semble à bout de force et en même temps, elle reste droite. Il y a quelque chose de rigide, d'inflexible chez elle. Même dans sa fragilité, on peut voir une certaine distance, de l'orgueil. Certains y ont vu du mépris, c'est selon. En tout cas, la pâleur de son visage ressort avec ses vêtements noirs, ses habits de veuve, ceux qu'elle porte depuis la mort de Louis XVI, exécuté 9 mois plus tôt, en janvier 1793. C'est qu'on l'avait imaginée autrement plus féroce, la louve autrichienne. On lui demande de s'asseoir sur une banquette, installée à gauche de la pièce, en face des 15 jurés qui ont été minutieusement choisis pour rendre le verdict. Elle s'installe devant le bureau du très jeune président du tribunal, un certain Martial Joseph Armand Herman. Il n'a même pas 33 ans. Il se lève et se tourne vers l'accusé pour lui demander. Accusé.
Accusé, veuillez décliner votre identité.
Veuillez décliner votre identité. Sous le regard mauvais de l'accusateur public, Fouquier-Tinville, elle répond.
Marie-Antoinette
Lorraine d'Autriche, âgée de 37 ans, veuve du roi de France. L'accusateur public énonce ensuite les charges retenues contre elle.
Primo, dilapider les finances de la France et d'avoir fait passer des sommes incalculables à l'Autriche. Secundo, d'avoir entretenu des intelligences et des correspondances avec les ennemis de la République. Et tertio, d'avoir tramé des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de la France, entraînant une guerre civile en divers points de la République.
C'est au milieu du vacarme qui parcourt la foule agglutinée dans la salle d'audience que ce procès commence. Et dans moins de 72 heures, la première République de France coupera la tête de sa dernière reine. Séquence 1, la naissance d'une reine. Comment cette femme, cette Autrichienne, se retrouve-t-elle à la barre du tribunal révolutionnaire de la Première République française ? Pour comprendre, il faut remonter quelques années auparavant, quand la France décide de s'allier avec son ennemi historique, l'Empire autrichien. En effet, à la moitié du XVIIIe siècle, la cour de Versailles souhaite s'éloigner de l'Empire prusse pour se rapprocher de la cour de Vienne. Pourquoi ? Parce que le roi de France compte étendre son influence, notamment en Italie, et a besoin pour ce faire de s'allier avec l'Autriche, qui règne en maître dans la région. C'est là qu'intervient Marie-Antoinette, Marie-Antonia, l'une des dernières filles de l'impératrice d'Autriche.
Au fond, Marie-Antoinette est une sorte de...
Emmanuel de Varesquiel, historien et auteur.
De garant et de gage de ce qu'on a appelé le renversement des alliances en France en 1756, c'est-à-dire quelques années avant son arrivée à Paris. La France décide de s'allier avec l'Autriche en défaveur de la Prusse. L'Autriche qui a toujours été par ailleurs l'adversaire traditionnel de la France. Ce renversement des alliances, cette nouvelle alliance autrichienne, est mal vécue par les élites françaises qui considèrent que l'alliance traditionnelle de la France contre l'Angleterre, c'est l'alliance prussienne et non pas l'alliance autrichienne. Et Marie-Antoinette, dans un certain sens, n'y peut rien. Elle est à la fois, si j'ose dire, le gage et le ventre de cette nouvelle alliance. Car les alliances politiques sous l'Ancien Régime se concrétisent par des alliances matrimoniales. D'où ce projet de mariage entre l'une des filles de Marie-Thérèse d'Autriche, l'impératrice d'Autriche, et le dauphin de France, qui est conclu donc en 1770. Donc Marie-Antoinette arrive dans un certain sens, si elle n'y peut rien, dans une atmosphère qui lui est politiquement hostile.
Avant d'être débarquée dans ce milieu politiquement hostile, Marie-Antoinette a vécu une enfance heureuse au sein de la cour des Habsbourg. Elle est née en Autriche le 2 novembre 1755. Elle a 15 frères et sœurs et elle passe son enfance à jouer dans le palais du Schönbrunn à Vienne. On la dit espiègle, curieuse, insouciante. Et parce qu'on pense rapidement à un mariage avec la France, elle reçoit une éducation adaptée à ce projet. Elle apprend la langue, les règles en vigueur à la cour de Versailles. Elle n'a pas 15 ans quand elle arrive en France, en avril 1770, pour épouser le jeune dauphin, le fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Ils se marient en mai 1770. Ils ont 14 et 15 ans, respectivement. Et au début, le conte de fées de la petite princesse et ton prince semble se réaliser.
Alors, elle est très bien acceptée quand elle arrive en France. Les échevins parisiens vont organiser une très grande fête qui va d'ailleurs, et certains en ont fait une sorte de signe fatidique de ce qui arrivera à Marie-Antoinette par la suite, une très grande fête qui va mal tourner. La foule était telle, place Louis XV, qui est maintenant aujourd'hui la place de la Concorde, la bousculade a été telle que plusieurs centaines de personnes ont été écrasées à l'occasion de cette grande fête, de ces feux d'artifice qui ont été tirés en l'honneur du mariage du jeune dauphin et de la jeune dauphine. Elle a été bien acceptée, et d'ailleurs elle s'en étonne dans les lettres qu'elle écrit à sa mère Marie-Thérèse. Elle a été bien acceptée par le peuple de Paris.
D'ailleurs, quand en 1773 elle se rend à Paris accompagnée du dauphin, la foule lui fait un accueil triomphal. Elle est jolie, elle est gracieuse. Et le peuple aime rêver à ce couple royal qui lui offre une perspective d'avenir un peu plus excitante que celle du vieux roi Louis XV, qui est sur le trône depuis plus de 50 ans. Mais si les Parisiens ne semblent retenir aucune rancune contre la jeune fille, à la cour c'est une autre histoire. Une histoire dans laquelle les origines autrichiennes de la jeune princesse sont de véritables obstacles politiques. Surtout pour ceux qui se méfient toujours de l'ancien ennemi, qui se refusent à accepter cette nouvelle alliance franco-autrichienne. Et puis, l'intégration de Marie-Antoinette est d'autant plus difficile que la cour de Versailles n'est pas réputée pour sa chaleur et sa convivialité.
Elle arrive d'un univers qui est la Hofburg, qui est la cour des Habsbourg à Vienne, qui est un univers beaucoup moins protocolaire et beaucoup plus familial que l'univers de la cour de Versailles, qui est, il faut dire les choses, quand même une sorte de panier de crabes, avec des rivalités claniques de ces familles de cour qui se succèdent de génération en génération et qui tiennent un certain nombre de grandes charges de cour. On attribue à Marie-Antoinette, donc on monte sa maison, ce qu'on appelle une maison avec un grand M, c'est-à-dire sa maison civile, la maison de la dauphine, et on lui attribue comme première dame d'honneur ou gouvernante une Noaille qui n'a pas son âge, qui est beaucoup plus âgée qu'elle et qu'elle prendra très rapidement en grippe. Et donc Marie-Antoinette, qui par ailleurs est quelqu'un de timide, qui n'aime pas la politique et qui subit probablement une sorte de traumatisme, enfin être arrachée de sa famille, de ses amis, de son entourage viennois, pour être projetée dans cet univers qu'elle ne connaît pas. Et elle trouve un mari, un jeune dauphin, qui n'est pas très aimable, qui vit tout de même dans une bulle, qui est passionné de chasse, qui lui-même est extrêmement timide et qui est assez jaloux de son pouvoir et qu'il le sera de plus en plus, et qui n'est pas d'une très grande élégance et d'une très grande courtoisie avec les femmes. Elle a été préparée à ça, mais c'est tout de même une rupture psychologique.
Alors, les années passent et Marie-Antoinette se renferme un peu sur elle. Et si elle remplit évidemment ses obligations de représentation dans toutes les grandes manifestations et fêtes de cour, elle décide petit à petit de se construire un univers à elle. Rien qu'à elle. Elle passe tout son temps avec ses amis, sa société, comme on dit, au Trianon. Elle fait construire un colombier, un moulin, des petites maisons. Elle organise des fêtes somptueuses. Elle aime la musique, le chant, elle fait jouer des pièces de théâtre. Un univers, en fait, à l'intérieur duquel elle peut se sentir en confiance. Elle se sent aimée, entourée.
Marie-Antoinette, je pense, et on le voit à travers les lettres qu'elle adresse à Marie-Thérèse, à sa mère, ou à l'ambassadeur d'Autriche, qui était un peu chargé de sa surveillance, qui s'appelle Mercier Argenteau, à Versailles, elle ne s'aime pas. J'en ai vu la manifestation concrète à travers le fait que, par exemple, elle va mettre des années à trouver un peintre qui lui convienne et un portrait d'elle qui lui convienne. Quand on refuse ses portraits, c'est qu'il y a un problème. Elle est mal à l'aise dans cette société versaillaise et elle a besoin d'être aimée. Et donc, elle crée une sorte de ce qu'on appellera la société de la reine. C'est l'invention de la vie privée à la cour, ce qui était tout à fait nouveau.
Depuis 1775 et le couronnement de Louis XVI, la petite cour de Marie-Antoinette s'est construite en parallèle de celle de son mari. Cette société de la désormais reine attire donc autant les convoitises que l'hostilité. Et cette hostilité, elle va se faire ressentir très rapidement. L'aversion d'une partie de la cour pour la jeune reine va progressivement s'intensifier et prendre une dimension sexuelle. Si Marie-Antoinette se crée ce qu'on appellerait aujourd'hui une vie privée, mais qui à l'époque n'existait pas, ni à la cour ni ailleurs, alors c'est qu'elle a des choses à cacher. Et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à cacher, si ce n'est pas un comportement sexuel déviant? Après tout, c'est une Autrichienne, et ces gens-là, on les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils fabriquent de tordus, d'obscènes derrière les portes closes de leur maison. Et puis, est-ce que la reine ne s'est pas installée avec sa cour dans le petit Trianon? Cette demeure scandaleuse construite pour les maîtresses du roi précédent, pour Madame de Pompadour, puis Madame du Barry. Cette demeure pour toujours, donc, associée à la débauche la plus vile. Il n'en faut pas plus pour que les premières rumeurs sur les débordements sexuels de la reine soient lancées à la cour, que les tout premiers pamphlets apparaissent. Et puis, il y a aussi un autre élément qui vient fragiliser la réputation précaire de la reine. C'est qu'elle n'a toujours pas donné d'héritier au royaume. En 7 ans, aucun enfant. Et Marie-Antoinette le sait, c'est pour son ventre qu'on l'a mariée à la France.
Elle est très très inquiète et je pense très humiliée de ne pas avoir d'enfant. Elle sait très bien les raisons politiques profondes pour lesquelles elle est devenue reine de France et pour lesquelles elle est à Versailles. Et en même temps, elle est sous la double pression à la fois du gouvernement du roi et de la cour de Vienne et de sa mère.
Et s'il n'y a pas d'enfant, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette reine étrangère. On l'a dit frustrée, accouchée avec tout le monde sauf avec son mari. Un comportement presque normal pour un homme, mais évidemment absolument inadmissible pour une femme. Si Louis XVI garde l'affection du peuple, ce n'est pas le cas de son épouse qui se sent de moins en moins à l'aise, de moins en moins en confiance à Versailles. Marie-Antoinette commence à négliger ses devoirs de représentation. Elle est jeune, elle n'a pas d'enfant, elle est frivole. On dit qu'elle monte sur les planches, qu'elle fait la comédie dans son théâtre du Petit Trianon, c'est un scandale. Qu'importe le fait qu'il y ait toujours eu des spectacles à la cour de Versailles, qu'importe le fait que Louis XIV, le danseur, se produisait déjà sur une scène un siècle auparavant. Marie-Antoinette n'est pas un roi, c'est une femme. Une Autrichienne qui plus est, qui prend des libertés avec l'étiquette, qui s'entoure de qui elle veut, qui fait ce qui lui chante, et qui en plus se cache pour le faire. C'est ainsi que la reine devint la reine la plus haïe de France, en tout cas la plus calomniée.
Très très vite, on assimile, et d'ailleurs ça, toute la littérature révolutionnaire est une littérature qui conduit une sorte de parallèle permanent entre les anciennes maîtresses de Louis XV et Marie-Antoinette. Les inventions, les vies de Marie-Antoinette qui sont publiées entre 1789 et 1792 font sans cesse le parallèle avec Madame du Barry, et Dieu sait qu'elle ne s'aimait ni ne s'entendait. Il y a un pamphlet atroce qui s'appelle « Descente aux enfers » de Madame du Barry, qui est publié en 1793, où les deux femmes se retrouvent en enfer et couchent ensemble, bien entendu. Enfin, vous savez, tout ça est à base de fantasmes sexuels hein, et de frustrations masculines. Il faut voir ce que c'est.
Séquence 2. Pamphlet et révolution, la chute de Marie-Antoinette. C'est par les pamphlets, ces fascicules d'une dizaine de pages, parfois accompagnés de dessins pornographiques, que vont se propager les calomnies sur la reine et se fixer dans l'imaginaire populaire. Certains sont même réédités près de 20 fois. Toujours anonymes, toujours excessifs, ils sont un peu les réseaux sociaux de l'époque. Si leurs sources sont à la cour, les pamphlets sont en général édités à l'étranger. Certains textes qui racontent que les enfants que Marie-Antoinette finit par avoir sont des bâtards, eh bien, ces textes partent d'Espagne. Royaume dont les héritiers Bourbons peuvent prétendre au trône de France. Louis XVI envoie même Beaumarchais à Londres pour rechercher l'auteur de l'imprimeur de plusieurs pamphlets. Mais rien n'arrête les histoires que l'on raconte sur Marie-Antoinette, en particulier sur sa sexualité, de plus en plus fantasmée. Et le fait est que Louis XVI, lui, n'a pas de maîtresse. En tout cas, il n'y a pas de rumeur, on ne sait rien sur sa vie sexuelle. Peut-être qu'il aimait les hommes, peut-être pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va se retourner contre sa femme, c'est elle qui paie l'absence de sexualité dans son couple. C'est elle qu'on transforme en infomane, jamais rassasiée. Tout le monde veut des informations sur ce qui se passe dans leur chambre à coucher, dans leur lit. On soudoie même les femmes de chambre pour en obtenir. Les premiers paparazzi de l'époque, un peu. Et si toutes les reines de France ont déjà fait l'objet de pamphlets, c'est clairement Marie-Antoinette qui a la plus mauvaise réputation. Sa nationalité, son rapport à la vie privée, mais aussi sa frivolité, sa naïveté, tous ces éléments s'accumulent contre elle. Et peu importe qu'elle ait fini par donner des héritiers au trône. Parce que d'un point de vue politique, et c'est le moins qu'on puisse dire, le timing n'est pas bon. Et ça, la reine, comme tant d'autres, n'en a pas encore conscience.
Je ne pense pas qu'elle réalise l'impact que ça pourra avoir, mais cet impact n'a eu lieu que dans la mesure où ces pamphlets rebondissent sur quelque chose de beaucoup plus profond qui s'appelle la Révolution française. D'ailleurs, ça vaut aussi pour le roi, par rapport à son éducation, par rapport au monde dans lequel elle vit. Je ne pense pas qu'elle ait jamais réalisé ce que représentait la Révolution française. Elle le dit d'ailleurs dans ses lettres, elle a toujours considéré que la Révolution était le fruit d'un complot, qu'elle était conduite par une bande de factieux et de misérables, et elle n'en a pas saisi, du point de vue par exemple du renversement de souveraineté, elle n'en a pas saisi les véritables conséquences, je ne le pense pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était idiote, mais les trois quarts du royaume ne comprenaient pas ce qui se passait en 1789. Elle n'était pas seule, hein.
Ils sont nombreux, effectivement, à ne pas prendre la mesure du tsunami politique qui s'enclenche en 1789. Comme d'autres, Marie-Antoinette ne voit pas la révolte arriver quand son mari, Louis XVI, décide de renvoyer Necker. Necker est pourtant l'unique ministre acquis à la cause du peuple, considéré comme un ministre patriote. Alors son renvoi, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Puisque 3 jours plus tard, le scandale est tel que les Parisiens, effrayés et affamés, prennent les armes et la Bastille. Nous sommes le 14 juillet 1789. Et face aux difficultés économiques, alimentaires des Parisiens, la rumeur insiste de plus en plus sur les dépenses exorbitantes attribuées à Marie-Antoinette. Évidemment, la jeune femme est dépensière et extravagante. Elle octroie des charges très importantes des revenus aux membres de sa cour privée. Elle dépense sans compter, elle organise des fêtes hallucinantes, des banquets, elle veut changer de tenue, de bijoux plusieurs fois par jour. Tout chez Marie-Antoinette est tourné vers l'amusement, le divertissement. Et pour cela aussi, elle devient une figure de plus en plus détestée. En témoigne la fameuse phrase qu'on lui attribue alors. « Il n'y a plus de pain ? Oh, mais qu'il mange de la brioche !» Peu importe qu'il n'existe aucune preuve, nulle part, que la reine ait jamais prononcé ces mots, cette légende urbaine va lui coller à la peau. Le grand Jean-Jacques Rousseau lui-même reprend cette citation dans ses Confessions et y situe Marie-Antoinette à une période où elle n'était même pas encore arrivée en France. Parce que Marie-Antoinette incarne le symbole parfait de la frivolité des bourgeois, les pamphlets tendent dorénavant à la présenter comme étant à l'origine de la situation financière difficile du royaume. Or, aussi dépensière qu'elle ait pu être, il ne s'agissait que de dépenses d'une femme, entre guillemets. Pas plus extravagante que les reines qui l'ont précédée. Autrement dit, rien qui puisse expliquer les dettes du royaume à ce moment-là de l'histoire.
Tout ceci est très largement fantasmé, parce que quand on regarde les budgets de l'État, les dépenses de cour ne représentent ni plus ni moins que ce qu'elles représentaient sous Louis XV et ce qu'elles représenteront à la cour de Napoléon ou à la cour de Louis XVIII et de Charles X sous la Restauration. Quand les députés du tiers-État arrivent, convoqués par Louis XVI aux États généraux, arrivent à Versailles fin avril 1789, les fantasmes sont tels qu'ils sont persuadés qu'il existe au Petit Trianon un cabinet qui est entièrement serti de pierres précieuses, d'émeraudes et de rubis. Et ils veulent absolument aller le voir. Bien entendu, il n'existe pas. Et l'explication, si vous voulez, des déficits des finances de l'État, elle tient à l'engagement de la France à la fois du côté de la marine et du côté de l'armée de terre, auprès des insurgents américains contre l'Angleterre. On a fait de Louis XVI un roi que l'on a vu à travers le prisme de la Révolution, un roi hésitant, inexistant, sans énergie. Mais Louis XVI, si on l'observe sur l'ensemble de son règne à partir de 1774, est un roi de guerre. Il est en guerre pendant presque 6 ans.
En tout cas, c'est à partir de 1789 que son rôle se politise et qu'on fixe son image de femme dépensière, débauchée et au fond toujours autrichienne. Marie-Antoinette s'investit effectivement un peu plus aux côtés de son mari à partir de la Révolution. Louis XVI, qui n'est pas en très grande forme à ce moment-là, s'appuie d'ailleurs plus régulièrement sur son épouse. Et le fait est que le couple se rapproche à cette période. Il y a une évolution entre eux deux.
La Révolution transforme les relations que Marie-Antoinette et Louis XVI ont pu entretenir jusqu'alors. Il y a une sorte de rapprochement à la fois sensible, sentimental et politique, quelle que soit l'existence d'Axel de Fersen qui a été ou n'a pas été, on ne le saura jamais vraiment, l'amant de Marie-Antoinette. Si elle en a eu un, c'est peut-être celui-là, et encore on n'en est pas sûr. Mais il est certain que l'adversité va les rapprocher. Est-ce qu'au fond, Louis XVI et Marie-Antoinette se trouvent brutalement en 1789 confrontés à une double catastrophe. Une catastrophe familiale, la mort de ce jeune dauphin à 7 ans et demi à Meudon le 4 juin 1789, alors même que la Révolution est en train d'éclater, que les États généraux sont à peine ouverts. Et donc il y a une sorte de double fragilité psychologique de la mort de ce dauphin et de l'irruption de la Révolution, que ni le roi ni la reine ne comprennent véritablement. Et donc la reine va conduire une politique, certainement une politique parallèle à celle de son mari, mais sans jamais avoir le pas sur les décisions de son mari. Dans ses lettres à Mercier Argenteau, elle parle, jusqu'en 1789, elle parle du roi qui est au-dessus de moi. Et puis ensuite, elle parle du roi qui est à côté de moi. Mais elle n'est jamais au-dessus du roi. Les décisions sont évidemment prises par Louis XVI, qui est un homme d'études, qui a toujours eu besoin d'un certain temps avant de prendre des décisions et d'une forme d'unanimité ou de confiance accordée à un principal ministre.
Le fait est que Marie-Antoinette est inflexible s'agissant du mouvement populaire qui s'amorce. Elle vit dans l'ancien régime et pour elle, les révolutionnaires ne sont que des traîtres au système monarchique. Elle ne compte faire aucune concession. À partir de cette période, elle présente une autre facette au public. De jeune femme frivole et dévergondée, elle prend une posture plus politique, une posture de reine, de fille d'impératrice, qui compte bien défendre un régime de droit divin. Alors, après la prise de la Bastille, consciente des risques encourus par sa famille et le système monarchique, Marie-Antoinette organise la fuite de la famille royale à Metz, dans l'est de la France, pour rejoindre une armée fidèle à la monarchie. Mais comme on le sait, cette fuite prend fin à Varennes, où ils sont reconnus, arrêtés, puis renvoyés aux Tuileries. Nous sommes le 22 juin 1791. La fuite à Varennes cristallise la colère du peuple et de ses représentants contre les personnes du roi et de la reine. Surtout la reine. Et puis cet épisode déçoit aussi ceux qui croyaient en une monarchie constitutionnelle, puisqu'il est désormais évident que ni Louis XVI ni Marie-Antoinette ne comptent s'adapter à un nouveau régime. La monarchie est abolie un peu plus d'un an après Varennes, en septembre 1792. La famille royale est conduite à la prison du Temple. Moins de 4 mois plus tard, le 21 janvier 1793, le roi est guillotiné. Et pendant un temps, on oublierait presque Marie-Antoinette. Sauf que la vie de la Première République de France est mouvementée, fragilisée. Une république menacée à la fois à l'intérieur de ses frontières et à l'extérieur.
À l'intérieur, elle est en proie à une très violente guerre civile, avec ces insurrections dans l'ouest de la France qu'on a appelées la Vendée, la Chouannerie, mais aussi à Toulon, qui est occupée par une flotte anglo-espagnole et qui se révolte contre le pouvoir jacobin central parisien, mais aussi à Lyon, qui se révolte en juillet 1793 contre ce même pouvoir. Et aux frontières, la République, les armées de la République subissent des revers. Valenciennes et Condé sont pris, ce sont des places fortes qui peuvent conduire directement les armées coalisées européennes à Paris. Donc on est dans une situation qui est une situation de panique, de très grande peur, et en même temps une situation dans laquelle la République cherche une explication à travers un bouc émissaire. À chaque fois que la République s'est retrouvée, cette jeune République s'est retrouvée dans une situation délicate, elle a trouvé une explication à ses échecs à travers la trahison. La trahison est un élément moteur, c'est le combustible même de la radicalisation de la Révolution française qui conduit la Révolution à la terreur en 1793.
Enfermée à la tour du Temple, Marie-Antoinette prend progressivement la figure d'un bouc émissaire idéal. Après tout, elle est autrichienne. Elle devient la traîtresse, la complotrice, la rumeur de son fameux cabinet autrichien qu'elle aurait construit quand elle était encore aux Tuileries pour organiser la guerre civile en France. Eh bien, tout cela va servir à justifier les difficultés auxquelles la République doit faire face. Mais ce n'est pas tout. Autour de l'ancienne reine vont se cristalliser des dissensions internes au mouvement révolutionnaire.
Et un phénomène qui conduit tout droit Marie-Antoinette au tribunal révolutionnaire et à l'échafaud, qui est cette espèce de rapport de force qui traverse toute la Révolution française entre une assemblée représentative et parlementaire, qui est en l'occurrence la Convention nationale, et des formes de démocratie directe incarnées par les sans-culottes des 48 sections parisiennes, par la Commune de Paris, qui demande à la Convention de voter des décrets de plus en plus radicaux et qui marche sur la Convention. C'est ce qu'on appelle les journées révolutionnaires. Et parmi ces revendications des sections parisiennes, des sans-culottes, il y a la tête de Marie-Antoinette. Les pamphlets contre elle à ce moment-là sont extrêmement violents. On parle de lui couper la tête et de la mettre dans un fût de canon pour l'envoyer directement sur Vienne. C'est d'une très très grande violence. À partir du moment où on considère que le roi est un instrument dans les mains de sa femme, qu'il a été manipulé par sa femme, que c'est un roi faible, inexistant, hésitant, qui n'a jamais pris aucune décision et qui a laissé sa femme diriger le royaume, à partir du moment où on dit cela, Marie-Antoinette, son destin tragique est absolument organisé à l'avance.
Les pamphlets sur Marie-Antoinette se durcissent à ce moment-là. En témoigne ceux publiés dans le journal Le Père Duchesne, dirigé par Hébert. Hébert, le plus célèbre et radical journaliste de la Révolution. Hébert qui demande de façon on ne peut plus claire la tête de Marie-Antoinette. On lit dans son journal.
On doit, dit-on, commencer le procès de l'architigresse d'Autriche. Si elle n'est pas jugée et raccourcie dans les 24 heures, je dirais foutre que nous ne sommes pas libres, que nous ne sommes pas dignes de l'être. Pas mal, non?
Très imagé.
Le peuple aime les images et les formules fortes. Moi, je lui donne ce qu'il réclame. Rien de mieux que la haine pour pousser les hommes à accomplir de grandes choses. Rien.
La mort de la reine est donc dorénavant présentée comme une condition sine qua non à la liberté du peuple français. À partir de ce moment-là, Marie-Antoinette va incarner le processus de revanche de la République sur ses ennemis. Et la question de son procès, de son exécution, puisque l'un ne s'imagine pas sans l'autre, va devenir inévitable. Parmi les personnalités qui sont directement et avec enthousiasme impliquées sur le cas, on trouve Robespierre, l'un des députés les plus importants de la Convention nationale. Il y a aussi Hébert, le journaliste, propriétaire du Père Duchesne, qui est élu au sein de l'aile la plus radicale de la Convention, celle des sections parisiennes, et parmi elles des sections qu'on appelle justement hébertistes. C'est l'alliance, provisoire évidemment, de ces deux hommes et des courants et mouvements qu'ils incarnent qui va aboutir au vote visant d'abord au transfert de Marie-Antoinette à la prison de la Conciergerie, puis à son décret de mise en accusation devant le tribunal révolutionnaire.
Et oui, mes amis, maintenant je peux vous annoncer que la Convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée.
2250 opposants ont été arrêtés.
Citoyens, rien n'est impossible à des hommes libres.
Les pouvoirs et les moyens du tribunal révolutionnaire décuplés.
La terreur est à l'ordre du jour. Mieux vaut tuer le diable avant qu'il nous tue.
Séquence 3, le procès de la reine. Le 2 août 1793, Marie-Antoinette est donc transférée à la Conciergerie. Ses enfants lui ont été retirés. Son fils, le dernier dauphin, lui, a été placé dans une famille de cordonniers, des révolutionnaires radicaux, les Simons. Enfermée dans sa cellule de la Conciergerie, séparée de ses enfants, Marie-Antoinette attend son procès sans pouvoir s'y préparer, préparer sa défense. C'est que le tribunal révolutionnaire est une toute nouvelle institution et bien peu réputée pour son impartialité.
Oui, il est créé en mars 1793, quelques mois avant le procès de Marie-Antoinette, et il est véritablement le bras armé de la terreur. Il est au cœur de la mécanique terroriste. Il sert de justification du point de vue du droit. C'est un tribunal d'exception. On juge sans appel. Les décrétés d'accusation ont droit à une défense, mais c'est une défense quasi inexistante. Les avocats sont commis d'office, sont nommés la veille du procès, ne connaissent pas les dossiers. Et donc, on juge sans appel. On accorde un jury de jugement, mais ce jury de jugement est très politique. Il est sous contrôle d'abord de la Convention, puis du comité de salut public. On ne choisit que ce qu'on appelait des jurés solides, c'est-à-dire ceux qui allaient dans le sens de la politique terroriste du gouvernement révolutionnaire des derniers mois 1793. Alors au départ, c'est un système de tirage. Et ensuite, de plus en plus, les jurés du jury de jugement sont choisis par le comité de salut public en accord avec l'accusateur public du tribunal révolutionnaire qui est Fouquier-Tinville, qui joue un rôle très important dans le procès de Marie-Antoinette.
Fouquier-Tinville, c'est un tout jeune magistrat. Il vient du nord de la France et, jusqu'en 1789, sa carrière était somme toute très moyenne. Et s'il embrasse la Révolution et ses idées, il comprend très vite que ce tournant politique, historique, peut lui servir de tremplin professionnel. Parce que, très engagé politiquement, Fouquier est aussi un opportuniste émérite. Il n'hésite pas à se servir du député radical et violent Robespierre, qu'il déteste au demeurant, mais il n'hésite pas à s'en servir pour se maintenir à la tête du tribunal en tant qu'accusateur public. Et il le restera d'ailleurs longtemps après l'exécution de son mentor. Fouquier-Tinville mise énormément d'un point de vue professionnel sur le procès de Marie-Antoinette. Et pour ce faire, il va s'appuyer sur Hébert, le pamphlétiste radical. Il va se servir de la haine viscérale de Hébert contre l'ancienne reine pour faire pression sur les députés de la Convention nationale et obtenir la tête de l'Autrichienne.
Je veux que la Convention arrête une date pour le procès de la veuve Capet.
Quelle meurt, cette Guenon ?
Nous sommes d'accord. Seulement, Robespierre estime qu'il n'y a pas urgence et moi je crains une nouvelle évasion. 3 tentatives déjà au Temple. La 4e pourrait être la bonne.
Tu sais comment elle fait cette fouine pour mettre les gardiens dans sa poche?
Non.
Elle remonte sa jupe et invite tout ce petit monde à y fourrer ce qu'ils ont envie d'y mettre. Tu peux compter sur moi. Tu connais mes réseaux. Les demandes vont pleuvoir sur la convention pour qu'on la juge, la putain couronnée.
Inutile de dire que cette discussion reste entre nous.
Le 12 octobre 1793, à 6h du matin, Marie-Antoinette est extraite de sa cellule pour subir un interrogatoire secret, destiné à préparer le procès qui s'annonce. Deux jours plus tard, le 14 octobre, alors que le jour n'est pas encore levé, des gardes se présentent devant l'ancienne reine pour la conduire à la salle de la liberté du tribunal révolutionnaire. Unité, indivisibilité de la République, écrit en lettres dorées sur l'une des portes de la salle. Il est 8h30 quand le procès débute.
Elle est accusée de trahison, ce qui n'est pas totalement faux, mais le tribunal a été incapable de produire quelque preuve que ce soit. On sait que Marie-Antoinette avait une correspondance secrète et codée. Elle n'appelle pas à l'entrée des troupes coalisées sur le territoire du royaume tant qu'elle pense ne pas être directement ou que ses enfants ne sont pas directement menacés de mort. Mais elle finira par crier au secours dans les derniers mois de l'existence de cette monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire entre, disons, le mois d'avril et le mois d'août 1792. Mais plutôt, non pas pour des raisons politiques, mais pour la survie même de la famille royale. Marie-Antoinette vit dans un univers politique qui est encore celui de l'Ancien Régime et de l'Alliance franco-autrichienne. Le royaume est menacé par une bande de factieux. On en appelle à l'aide militaire de son allié. Évidemment, du côté de la Révolution, cette aide militaire, cet appel, c'est une trahison.
Au-delà de l'accusation de trahison et de complot contre la sûreté de l'État, Marie-Antoinette est aussi accusée de dilapidation des finances publiques. Elle reconnaît, d'ailleurs, que ses dépenses personnelles étaient élevées. Elle reconnaît avoir, peut-être, dit-elle, dépensé plus qu'elle n'aurait souhaité. Mais le fait est que, encore une fois, si on regarde les chiffres, le montant de ses dépenses ne sont rien face à la fois au déficit laissé par les rois précédents et aux dettes générées par la guerre d'Amérique. Le dossier de Fouquier-Tinville est vide, et il le sait. En réalité, le seul élément à charge, le seul élément tangible du dossier de l'accusateur public réside en un motif. Le peuple déteste l'Autrichienne. Parce qu'elle n'est pas jugée d'ailleurs en tant qu'ancienne reine de France, non? Elle est jugée en tant qu'Autrichienne, que Habsbourg, en tant qu'ennemie historique. Alors, Fouquier décide de ramener cette colère, cette haine, dans l'enceinte même du tribunal. Il décide de faire comparaître des dizaines de témoins, un peu plus de 40, dont les récits relatent au mieux des rumeurs, au pire des fantasmes.
La veuve Capet a envoyé des sommes immenses en Autriche. Je le sais de source sûre, citoyen président. Je le tiens d'une bonne patriote, à qui un favori de la cour en a fait confidence.
Je servais au palais de Versailles, et voilà le comte qui me coince pour me parler de l'autre, là. Elle venait encore de convaincre le roi de donner de l'argent à son frère. Elle ruine la France, qui disait.
Vous savez de quelle somme d'argent il s'agissait?
Oh là, si je m'en souviens. De 20 millions, qui me dit. Sauf qu'après, il m'a dit que c'était pas 20 millions qu'elle lui avait donné, mais 200. C'était qu'un début. Qu'elle allait encore lui en donner plus.
Le fait est que la plupart des témoignages sont hasardeux et ne sont pas étayés de preuves. Et puis, les questions posées par Fouquier-Tinville à Marie-Antoinette sont en réalité des accusations qui n'appellent jamais de réponse. Bref, non seulement ce procès est une mascarade, mais en plus la mascarade est ratée. Tous savent qu'il ne s'agit pas d'un affrontement entre une femme coupable, un bourreau, et ses victimes. Non, il s'agit d'un procès de l'Ancien Monde par le Nouveau Monde. Celui de l'Ancien Régime et de sa société d'ordre, par le monde de la Révolution et de ses idéaux égalitaires. Et malgré toutes ses fautes et ses responsabilités, l'ancienne reine elle-même n'a pas les épaules assez larges pour incarner un système tout entier. Mascarade ratée aussi, parce que le procès permet à l'ancienne reine de révéler un nouveau visage, un visage sérieux, rigoureux, sobre, bien loin de l'image frivole et débauchée créée par les pamphlets.
Cette femme qui est plongée dans une solitude absolue, enfermée à la conciergerie depuis quand même 2 mois, va se comporter de façon à la fois courageuse et intelligente. vis-à-vis du président du tribunal et vis-à-vis des jurés, en défendant au fond beaucoup plus que ne l'avait fait son mari à son procès devant la Convention nationale, l'absolutisme monarchique et les droits de ses enfants. Elle défend les droits de son fils. Hein. Elle se comporte un peu en passionnariat de l'absolutisme monarchique.
Ce n'est pas tant le discours que la posture de Marie-Antoinette, sa façon de gérer les accusations et leur violence qui affectent, qui fragilisent le dossier de Fouquier-Tinville. Pour la première fois, elle prend ses responsabilités en tant que souveraine. Et parce que son dossier contre la reine se fissure, l'accusateur public se décide à attaquer la femme et puis la mère. L'accusation d'inceste crée une déflagration dans le tribunal. C'est presque l'accusation ultime pour l'époque, tant la Révolution sacralise le rôle de mère et impose une rigueur morale absolue aux femmes. Mais Fouquier-Tinville ne veut pas simplement avilir la mère. Il sait que, pour des raisons politiques, le dauphin représente toujours un risque pour la République. Pour les monarchistes, c'est le dauphin, le roi. Alors à défaut de pouvoir le tuer, il faut trouver un moyen de le discréditer, moralement, de le salir. Et pour salir le fils, Fouquier salit la mère.
Citoyen Hébert, je sais qu'il vous est arrivé à plusieurs reprises de rendre visite à la prévenue à la prison du Temple.
Oui, je me suis souvent rendu dans sa cellule. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'elle ment de manière éhontée. Le jeune Capet, dont la constitution physique dépérit chaque jour, a été surpris par le citoyen Simon dans des pratiques indécentes pour son âge. Celui-ci lui ayant demandé qui lui avait appris ses manières, il répondit que c'était sa mère et sa tante qui lui avaient enseigné cette funeste habitude. De la déclaration faite par le jeune Capet, il résulte que pendant son séjour au temple, ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles deux et qu'il n'y avait pas à douter, toujours par ce qu'a dit le fils Capet, qu'il y ait eu un acte incestueux entre la mère et le fils.
Comment arrive cette accusation d'inceste qui est portée par Hébert, cet extrémiste révolutionnaire, le rédacteur en chef du Père Duchesne? Elle arrive assez rapidement dans la mesure où Fouquier-Tinville a un dossier vide. Et il va passer par le biais de la perversion sexuelle pour accuser Marie-Antoinette non pas seulement en tant que reine, non pas seulement en tant que femme, mais en tant que mère. C'est une troisième dimension du procès qui est vraiment extrêmement importante. À partir d'aveux forcés, à l'issue d'interrogatoires serrés menés à la tour du Temple devant le petit dauphin. Le dauphin qui probablement est terrorisé et qui, comme souvent les enfants de 7 ans, essaye de complaire à ceux qui le dominent, va finir par émettre cet aveu et qui sera porté à la connaissance du tribunal par le témoignage d'Hébert et de Simon, et qui conduira à cette apostrophe de Marie-Antoinette, j'en appelle à toutes les mères.
Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à pareille accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui se trouvent ici.
J'en appelle à toutes les mères. La phrase de Marie-Antoinette restera dans l'histoire. Mais elle ne changera pas l'issue du procès. Les deux avocats de l'ancienne reine, commis d'office la veille du procès, n'y changeront rien. Ils seront d'ailleurs arrêtés dans la foulée du jugement, soupçonnés eux aussi d'avoir trahi en recueillant les confidences de Marie-Antoinette. 72 heures après le début du procès, Marie-Antoinette est condamnée à mort. À une petite majorité des voix, mais condamnée à mort. Et personne à la cour de Vienne ne tente de la sauver.
Elle est complètement abandonnée. Il va y avoir des tentatives de tractation, d'échange, comme ça sera le cas avec sa fille, Madame Royale, qui va finir par être échangée en 1795. Mais elle ne représente plus rien aux yeux des Autrichiens, d'autant plus que la coalition des rois européens, Autriche, Prusse et Angleterre, est victorieuse sur le terrain. La situation est favorable à la coalition militaire anti-républicaine. Et Marie-Antoinette est abandonnée par la cour de Vienne. Les derniers à essayer de la sauver, il y aura des dévouements absolument extraordinaires. Un certain nombre de prisonniers autrichiens, d'officiers supérieurs autrichiens, prisonniers de la République, vont se demander à se constituer otages, c'est-à-dire vont proposer l'échange de leur vie contre celui de Marie-Antoinette. Mais ils n'obtiendront que du silence de la part de la cour de Vienne, qui littéralement, et elle en sera d'ailleurs assez embarrassée, Napoléon le dit dans le mémorial de Sainte-Hélène, au moment de son mariage avec Marie-Louise d'Autriche, à quel point la cour de Vienne était embarrassée de cette attitude qui a été la sienne vis-à-vis de cette petite archiduchesse littéralement abandonnée sur l'autel de la politique.
Le 16 octobre 1893, au matin, elle quitte la conciergerie. On la place sur une charrette découverte et on l'emmène jusqu'à la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde à Paris. Tout le long de la rue Saint-Honoré, il y a des milliers de Parisiens qui l'attendent depuis des heures. Ça chante, ça crie, ça lit des pamphlets orduriers, des caricatures. La guillotine l'attend, comme le public venu en nombre. C'est que le spectacle a été pensé pour lui. L'exécution capitale participe à la fois à l'expiation de la coupable et à la vengeance des spectateurs. Et pourtant, d'un point de vue politique, la condamnation de Marie-Antoinette n'aura pas l'effet escompté.
Non, parce que la Révolution va beaucoup plus vite que les procès qu'elle conduit. La situation militaire va se rétablir assez rapidement. Toulon va tomber aux mains avec un petit officier d'artillerie qui s'appelle Bonaparte. Bonaparte va tomber aux mains des Républicains en octobre. Lyon va être prise par une armée révolutionnaire et vengée, et rebaptisée Villafranchie, comme vous le savez. La révolte vendéenne va être assez rapidement matée un peu plus tard. Et puis les armées coalisées vont être refoulées aux frontières de la République. Donc au fond, ce procès qui a été tellement désiré par les activistes révolutionnaires va être très vite oublié et va conduire au fond, du point de vue des mémoires, à cette partition que l'on retrouve encore aujourd'hui des mémoires de Marie-Antoinette entre ceux qui continuent à penser qu'elle a trahi et ceux qui en ont fait progressivement via toute une littérature romantique qui l'ont transformée en martyr. Ce procès a été, si vous voulez, l'intersection de mémoires profondément antinomiques de la reine Marie-Antoinette.
Effectivement, de la même façon que la Révolution avait besoin d'une reine coupable, la royauté, à nouveau en place en 1814 avec Louis XVIII, a besoin d'en faire une sainte, à tout le moins une martyre. Le fait est que le procès de Marie-Antoinette inaugure une série de procès retentissants, dont de grands procès de femmes comme celui d'Olympe de Gouges, guillotinée quelques semaines après Marie-Antoinette, ou alors de Madame du Barry, l'ancienne favorite de Louis XV, également guillotinée dans la foulée. Ces procès sont décalqués les uns sur les autres. À chaque fois, c'est le caractère diabolique de la femme qui l'entraîne sur les chemins de la débauche et de la trahison. C'est que, au-delà des particularités du dossier, de l'affaire Marie-Antoinette, son jugement révèle aussi la place que la Nouvelle République compte laisser, ou non, aux femmes. Et dans la fiction documentaire d'Arte, Ils ont jugé la reine, le personnage d'Hébert le résume très bien.
Le procès de l'Autrichienne, c'est aussi le procès de toutes ces femmes qui outrepassent leurs droits naturels, qui mettent leur nez dans les affaires de leur mari. Tu ne vois pas ce qui se passe? Ces putains sont en train d'oublier que leur rôle, c'est de donner des enfants à la République et de les élever pour en faire des citoyens.
Je sais.
La place d'une femme, c'est chez elle à s'occuper de sa famille, de son mari, de ses enfants, et pas à jouer à saute-mouton au Trianon et à s'envoyer en l'air avec n'importe qui.
La Révolution, qu'est-ce que c'est? Ce sont des assemblées d'hommes. Et souvenez-vous de la première phrase écrite par Elisabeth Vigée-Lebrun, donc qui est le peintre portraitiste de Marie-Antoinette dans ses mémoires. Lorsqu'elle parle de la fin de l'Ancien Régime, elle dit à peu près ceci, les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. C'est parfaitement vrai. Vous savez, dans les cahiers de doléances du tiers-état parisien, l'une des premières demandes, c'est l'enfermement des prostituées parisiennes, qui étaient très nombreuses. Elles étaient sur une population de 600 à 700 000 habitants, elles étaient entre 20 et 30 000. Et le sexe est contre-révolutionnaire. La révolution, c'est une réaction au libertinage de la fin du XVIIIe. Le XVIIIe est un siècle très très contradictoire, à la fois avec la montée en puissance de la morale et ce libertinage, surtout dans la seconde moitié du XVIIIe. Et la révolution est une reprise en main morale de la société.
« Le procès de Marie-Antoinette raconte donc, d'une certaine façon, bien plus de choses sur la période dans laquelle il intervient que sur les crimes de l'accusé. Et si l'ancienne reine de France n'avait pas saisi l'ampleur des tensions qui parcouraient son époque, il est des femmes qui, au contraire, choisissent de les incarner, ces tensions. Des violences, des fureurs politiques que des femmes criminelles embrassent et laissent se déchaîner. Le terrorisme en est l'une des illustrations les plus frappantes, les plus symboliques aussi. Mais les femmes terroristes ont toujours été traitées différemment de leurs homologues masculins par l'institution judiciaire. Elles ont longtemps constitué soit un tabou, un angle mort de la justice pénale, soit au contraire une figure mythifiée. Mais si, pendant longtemps, on a refusé de voir l'expression de cette violence politique chez les femmes, leur dangerosité n'est désormais plus à prouver. C'est sur ces criminels d'un genre particulier que nous consacrerons notre prochain épisode, au travers du procès d'Inès Madani, 19 ans, première femme française à avoir été condamnée pour avoir initié et mené une entreprise terroriste djihadiste. Inès Madani, le terroriste, est une femme, à retrouver dans le prochain épisode de notre série « Femmes coupables ». Merci à Emmanuel de Varesquiel, historien et auteur, notamment du livre « Juger la reine » paru en 2016 aux éditions Talendier. Son prochain ouvrage intitulé « Jeanne du Barry, une ambition au féminin » est à paraître toujours chez Talendier en septembre prochain. Merci aussi à Arte pour avoir permis la diffusion d'extraits sonores de la superbe fiction documentaire réalisée par Alain Brunard intitulée « Marie-Antoinette, ils ont jugé la reine », film produit par Arte et disponible en VOD sur Arte Boutique. Femmes coupables, un podcast La Première, de Juliette Proutot, préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Buy. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.